Il est 17h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire de cette édition de ce jeudi 4 juillet 2024, présentée par Nanit Talani. Au Niger, l'armée riposte à une attaque meurtrière et tue plus de 100 terroristes. RDC, condamnation à mort de 25 militaires pour fuite devant l'ennemi. Au Togo, l'opposition demande pardon au peuple et promet de se racheter. Au Soudan, un naufrage d'une embarcation a fait 25 morts. Et puis ici aux États-Unis, c'est la fête nationale, célébrée avec des barbecues, parades et feux d'artifice dans tout le pays. En sport, ce sera le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Vous allez découvrir tout à l'heure les différents groupes des pays concernés. En attendant, voici le journal. Au Niger, l'armée dit avoir tué plus de 100 terroristes lors d'opérations aériennes et terrestres toujours en cours. Elle affirme que c'est en réponse à une attaque djihadiste ayant tué 20 militaires la semaine dernière. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
L'armée soutient que les opérations terrestres et aériennes se poursuivent pour neutraliser le groupe terroriste responsable de l'attaque de Tassia. Le 25 juin, 20 soldats d'une opération antiterroriste et un civil ont été tués dans une attaque menée par une coalition de groupes armés près du village de Tassia dans le département des Téra. Plusieurs dizaines de terroristes sont morts lors de la riposte, indique l'armée nigérienne qui avait dit avoir tué quelques jours plus tôt un membre influent du groupe État islamique. Entre dimanche et mercredi, un raid à Colma et des fouilles sur des marchés de Dougouro et Bankilare, trois localités situées dans la zone des Téra, ont permis de neutraliser 8 terroristes et d'en arrêter 19 autres selon l'armée. Le département de Téra est situé dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Téra est aussi le lieu de passage de milliers de camions de fret du Niger arrivant chaque mois du port de Lomé au Togo via le nord du Burkina sous escorte des armées des deux voisins.
Au Togo, l'opposition demande pardon au peuple pour ses erreurs et divisions. Des facteurs qui, selon les leaders de l'opposition, les ont conduits à des échecs politiques dans leur combat pour une alternance politique. Des détails avec Alexandrine Holognon.
Le peuple a tout donné, mais les leaders de l'opposition ont péché. Raison pour laquelle nous lui demandons pardon, a déclaré Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais, à la fin d'une conférence débat mercredi sur la nouvelle constitution contestée. Nous disons aux Togolais que nous avons pris une nouvelle orientation dans la sincérité et dans la cohérence pour renforcer notre crédibilité, a promis Nathaniel Olympio. La rencontre était organisée par la coalition Touche pas à ma constitution, un regroupement de partis et d'organisations de la société civile. La nouvelle constitution, adoptée définitivement le 19 avril et promulguée le 6 mai, a fait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et dans une cinquième république où le pouvoir sera désormais concentré entre les mains d'un président du Conseil des ministres. Ce président du Conseil ne sera pas élu, mais le poste reviendra automatiquement au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, c'est le parti de l'actuel président Fornia Singbe qui a largement remporté les dernières élections législatives en avril avec 108 sièges sur 113. Pour l'opposition, ce changement constitutionnel est une manière pour Fornia Singbe de se maintenir au pouvoir et de perpétuer la dynastie familiale, car il a succédé à son père qui avait dirigé le pays pendant près de 38 ans.
En République démocratique du Congo, le tribunal militaire de garnison de Butembo, dans le Nord Kivu, a condamné à mort hier 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les rebelles du M23 dans l'est du pays, selon leurs avocats. Avec 6 autres prévenus, dont 4 femmes civiles, épouses de militaires, ils étaient aussi poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et vol, a indiqué la défense qui veut faire appel de ces condamnations. Les autres accusés, dont les 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves. Au Soudan, environ 25 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation alors qu'elles tentaient de fuir les combats opposant les forces paramilitaires et l'armée dans le sud-est. Pendant ce temps, les paramilitaires soutiennent ce jeudi avoir pris le contrôle d'une base militaire stratégique près de la frontière avec le Soudan du Sud. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Environ 25 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau alors qu'elles traversaient le Nil bleu dans l'état du Sénart, a déclaré dans un communiqué le comité de résistance local, sans préciser la date. Des familles entières ont péri en tentant de fuir, a ajouté le groupe pro-démocratie qui documente et organise l'entraide entre habitants. Les autorités locales de l'état de Guédaref ont estimé ce jeudi à 120 000 le nombre de déplacés arrivés récemment dans leur état, un état voisin du Sénat relativement épargné par les violences. Ce jeudi, les forces de soutien rapide ont affirmé avoir pris le contrôle d'une base militaire stratégique à Miram, dans l'état du Kordofan occidental, à quelques 60 km de la frontière avec le Soudan du Sud. L'armée soudanaise n'a pas répondu pour l'instant aux affirmations des FSR sur leur avancée dans cette zone riche en pétrole. Les FSR contrôlent déjà les frontières occidentales du Soudan avec le Tchad, la République centrafricaine et la Libye.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a frontalement attaqué ce jeudi, sans la nommer, l'institution chargée du suivi du respect des droits humains en Éthiopie, l'accusant d'être otage des étrangers. Il l'a dit lors d'une séance de questions-réponses avec les députés dans une assemblée où son parti de la prospérité détient plus de 95% des sièges. Nous payons leur salaire, mais il semble que ces institutions poursuivent les objectifs d'étrangers, a ajouté le Premier ministre. Les institutions des droits de l'homme sont à l'abri de l'influence du gouvernement, mais ils sont otages des étrangers, a-t-il affirmé. En Tunisie, le chef d'un parti d'opposition, Lofti Rayi, qui a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre, a été arrêté hier par la police qui le soupçonne de blanchiment d'argent. Le porte-parole du tribunal de Tunis a déclaré en début de semaine que Mahiri était accusé de blanchiment d'argent et d'ouverture de comptes bancaires à l'étranger sans licence de la Banque centrale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis célèbrent ce 4 juillet leur fête nationale, commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776. C'est une journée de festivité avec des barbecues, parades et feux d'artifice dans tout le pays. Pour de nombreuses familles américaines, c'est l'occasion de se réunir et de profiter d'un moment convivial. Les barbecues sont de rigueur avec des hamburgers, hot dogs, salades et tartes aux pommes au milieu de plusieurs spectacles. Le soir, les familles se rassemblent pour admirer les feux d'artifice. La Maison-Blanche rejette la possibilité que Joe Biden retire sa candidature à un second mandat, malgré les inquiétudes sur son état de forme. Le président de 81 ans n'envisage absolument pas de jeter l'éponge, a affirmé sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, après son débat avec Donald Trump. Le point avec Blanche Sano.
Je me suis plantée, j'ai fait une erreur, c'est 90 minutes sur une scène. Regardez ce que j'ai fait durant 3 ans et demi, a déclaré Joe Biden dans un entretien avec une radio du Wisconsin. J'ai été mauvais dans un débat, a répété Biden dans une autre radio en Pennsylvanie, ajoutant « Je serai dans la course jusqu'au bout et nous allons gagner ». Un élu démocrate de la Chambre des représentants, Raoul Grijalva, en Arizona, a été le deuxième à appeler Joe Biden à sortir de la course. Ces appels n'ont pas trouvé de relais parmi les gouverneurs démocrates, des figures influentes dans la vie politique américaine qu'il a réunies à la Maison-Blanche. Les gouverneurs démocrates vont le soutenir, ont assuré deux d'entre eux, Wes Moore du Maryland et Tim Walz du Minnesota. Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, l'un des plus gros donateurs du Parti démocrate, a estimé que Biden devait jeter l'éponge pour permettre à un leader démocrate vigoureux de battre Trump. Joe Biden a prévu de donner demain une interview à la chaîne télévisée ABC et de tenir une conférence de presse la semaine prochaine pour prouver sa capacité à s'exprimer sans prompteur. Il se rendra aussi dans deux États décisifs, le Michigan, demain 5, et la Pennsylvanie, le 7 juillet.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé ce jeudi de mobiliser une délégation pour négocier la libération des otages retenus à Gaza, a rapporté son bureau au lendemain de l'annonce par le Hamas de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a ordonné ce jeudi le rétablissement d'une commission d'enquête sur les crimes politiques commis durant la dictature militaire. La commission a été dissoute par son prédécesseur, Jair Bolsonaro, à la fin de son mandat en décembre 2022. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Alexandrine Holonian.
Les sociétés Trafigura et Promarx ont signé un accord avec le gouvernement angolais pour développer un projet national de transmission et d'approvisionnement en électricité. Le projet envisagé est une ligne de transport d'électricité haute tension de 2000 MW pour acheminer l'énergie produite par les barrages hydroélectriques du nord de l'Angola vers la ceinture de cuivre de la RDC et la Zambie en s'intégrant au pôle énergétique de l'Afrique australe. C'est ce qu'a indiqué Trafigura. Le régulateur pétrolier du Nigeria affirme avoir prouvé deux ventes d'actifs onshore par des compagnies pétrolières internationales, ouvrant ainsi la voie à l'acquisition d'actifs par Oando et le nouveau venu Project Odin Mine. Les autorisations pour la vente d'actifs d'ExxonMobil et Seaplat pour 1,3 milliard de dollars et pour la cession de Shell à Renaissance restent en suspens. L'Éthiopie recevra une aide de 10,5 milliards de dollars au cours des prochaines années si les négociations de longue haleine avec le FMI et la Banque mondiale aboutissent, a déclaré jeudi le Premier ministre Abiy Ahmed. Les analystes estiment qu'afin d'obtenir le soutien du FMI, l'Éthiopie pourrait devoir accepter de dévaluer sa monnaie BIR, qui s'échange au marché noir à un taux inférieur de 50% au taux de change officiel.
Merci Alexandrine pour ces informations économiques. Place à présent aux actualités sportives présentées par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Les groupes pour les qualifications de la prochaine CAN Maroc 2025 sont constitués.
Oui, le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. La championne en titre, la Côte d'Ivoire, a été placée dans le groupe G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Le Nigeria, vice-champion, a été logé dans le groupe D avec la Libye et le Rwanda. L'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN, fera face à l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud dans le groupe K. Le Cameroun, cinq fois vainqueur de cette compétition, est dans le groupe J avec la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. L'Égypte, le Cap-Vert et la Mauritanie, ainsi que le Botswana composent le groupe C. L'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria forment la poule E.
Le pays hôte est logé dans la poule B.
Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 et hôte et qualifié d'office, va quand même affronter le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho dans le groupe B. Le groupe L renferme le Sénégal, le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Dans la poule I, on retrouve le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Dans le groupe F, le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger s'affrontent. La poule H comprend la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Cette année, il y aura deux journées de qualification en septembre, deux en octobre et les deux dernières en novembre. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.
Au Mali, Eric Sekouchel réagit à son limogeage à la tête de l'équipe malienne.
C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par l'ex-sélectionneur des Aigles. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
En tant qu'entraîneur de football professionnel, je me dois de réagir en professionnel. C'est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par des voies légales. Je suis malien et j'ai toujours œuvré pour ne pas humilier mon pays en divulguant mes difficultés sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on retient de son message posté sur son compte Instagram. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali dit ne pas aimer la façon dont il a appris son limogeage. Il dit d'ailleurs d'être surpris de l'apprendre à travers les réseaux sociaux. Malgré le contexte difficile, a dit Eric Sekouchel, de mai 2022 jusqu'à la date de son limogeage, il s'est donné à fond pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Et d'ajouter qu'il a décidé de garder le silence sur les défis rencontrés pour des raisons d'éthique, d'honneur et de dignité. Eric Sekouchel, dans son message, a également remercié le public sportif malien, les joueurs, toutes les équipes nationales et les autorités pour leur soutien. Il a enfin souhaité tout le succès possible à son successeur et dit rester un fervent supporter des Aigles du Mali. Ce message d'Éric Sékou Chèle intervient au moment où Hamari Traoré, capitaine des Aigles du Mali, vient d'être suspendu par la Fédération malienne de football pour avoir dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du football malien. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, ce 4 juillet est une journée importante pour les Américains qui commémorent la signature de la Déclaration d'indépendance de leur pays le 4 juillet 1976, tout en célébrant leur histoire et leurs valeurs. C'est l'heure des festivités patriotiques et l'occasion de se réunir en famille et entre amis, de profiter du beau temps et de partager un moment convivial entre barbecue, parades et feux d'artifice, comme chaque année. Pour une petite immersion dans l'histoire, Jacques Aristide a joint le politologue américain Calvin Dark. Avec une pointe d'humour, M. Dark nous dit s'il faut inviter ou au contraire éviter la politique à table pour les repas de famille.
Aujourd'hui, le 4 juillet, c'est exceptionnel parce que c'est la seule fête qui est purement américain, c'est-à-dire qu'il y a des liens à une religion, à une culture. C'est vraiment le holiday, le jour férié pour tous les Américains pour fêter l'Amérique. Alors, je crois que c'est pour ça que tout le monde aime fêter le 4th of July, le 4 juillet.
Comment les Américains fêtent-ils le 4 juillet? Et vous-même, d'ailleurs, qu'avez-vous prévu de faire en cette journée?
Je crois que il y a deux choses qu'on peut faire pour le 4 juillet. Un, c'est le barbecue, le cookout, ou voyager. Et même si on voyage, c'est au cookout. Alors, on voyage pour aller au barbecue, on fait le barbecue, les gens viennent. C'est vraiment une fête de famille. Parfois, on visite de ma famille en Caroline du Nord, mais cette année, j'ai mes cousins qui vont me rendre visite à Washington. Alors, c'est vraiment la famille, la bouffe, la nourriture et le fellowship, comme on dit, d'être avec famille, avec le barbecue et avec surtout parce que c'est l'été, c'est bonne occasion de reposer un peu avec les proches.
Il s'agit donc d'une grande fête patriotique, parade géante, feux d'artifice. Et donc, pour clôturer la soirée, à New York s'enflamme également, n'est-ce pas, avec le traditionnel feu d'artifice.
Oui, feu d'artifice, c'est vraiment important. Je dis pour ma famille, ça c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai déjà répondu aux questions de mes cousins qui me vont rendre visite. Il y a des feux d'artifice. J'ai dit à New York, à Washington D.C., il y en a. Et ça, c'est vraiment le point fort pour moi pour le 4 juillet.
C'est donc l'occasion des grandes retrouvailles familiales dans un pays marqué toutefois par une forte polarisation politique. Pour les repas de famille, faut-il inviter ou au contraire éviter la politique à table?
Oui, le conseil toujours, c'est éviter la politique et la religion, mais je crois que en 2024, c'est impossible, c'est inévitable. Et je crois que maintenant, surtout avec la discussion après le débat, il y aura beaucoup de discussions sur la politique, mais ça ne va pas être démocrate ou républicain. Mais je crois que beaucoup de familles vont poser la question sur l'âge. Parce que ça, c'est vraiment au centre de la question. Et je pense même à ma famille. On a des membres de ma famille qui ont des problèmes avec l'âge. Il y a beaucoup de blagues parmi eux. Et je crois qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Et quand on parle de la politique et la question d'âge des deux parties, je crois que ça va être un moment pour les familles de réfléchir un peu de leur situation. Parce que c'est pas quelque chose juste pour les candidats à la présidence. Alors, je crois que pour ça, on va parler de politique. Mon conseil, c'est de l'éviter si on peut.
C'était Calvin Dark, analyste américain et directeur ainsi que cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la justice militaire a condamné 27 militaires congolais à des peines allant de 10 ans de prison à la peine de mort. Ils ont été reconnus coupables de fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre et vol. C'était lors d'une audience foraine tenue à Alimbongo. Ce procès est différemment apprécié, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi.
C'était au terme d'une audience foraine organisée par l'auditorat militaire des garnisons de la ville de Butembo à Alimbongo, près de la ligne des fronts, que la sentence est tombée. Le porte-parole militaire de l'opération Front Nord, lancée contre le rebelle GM23, parle d'un procès exemplaire dont l'impact positif s'est fait déjà sentir. Le lieutenant Bouirigen.
Dans la soirée, nous n'avons vu aucun militaire sur les tronçons KCI à Limbongo, Lubero. A pris conscience que toute tentative de quitter les lignes de front sans un ordre préalable de sa hiérarchie constitue des poursuites judiciaires. Également dans les champs de bataille, et cela a encore un effet positif. Pourquoi? Parce que le militaire dira, si je fuis ou je quitte les lignes de front, j'aurai des poursuites judiciaires.
Avis partagé par le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, Deliko Mbambu et son secrétaire exécutif.
La condamnation des 27 militaires est arrivée à point nommé parce qu'il est inadmissible qu'un militaire digne de son nom, qui fouille la ligne des affrontements, puisse arriver dans la société et commencer à crépiter des balles de manière à créer la peur dans la population pour qu'il lui permette de piller ses biens. Il faut qu'il soit poursuivi et condamné.
La société civile, quant à elle, estime que la tenue de cette audience est inopportune car elle décourage les militaires engagés dans les opérations contre les rebelles du M23. Georges Mouindo est acteur de la force vive à Butembo.
Ce procès rendu par le tribunal militaire faisant état de la condamnation des militaires FRDC semble quelque peu subjectif pour les raisons suivantes. La sentence se réalise sur les lignes de front. En lieu et place du réconfort des troupes engagées, le tribunal militaire vient décourager par ce procès les soldats qui pourtant ont enduré.
Le tribunal militaire de Butembo a tenu cette audience foraine à Limbongo, 20 km de la dernière ligne des fronts dans les territoires des Lubero. Sur les 31 prévenus, 25 militaires, dont un officier, ont été condamnés à la peine de mort. Un officier à 10 ans de réclusion et 4 femmes des militaires ont été acquittées. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Lorsque Harry et Iko van der Waal ont constaté les effets dévastateurs de l'épidémie du VIH-Sida en Eswatini, ils ont quitté l'Ohio aux États-Unis en 2004 et sont partis mettre en place un service de soins de santé gratuit dans ce pays. Aujourd'hui, leur organisation à but non lucratif, Value Commission, fournit des soins médicaux à plus de 300 000 patients par an dans l'Eswatini rural. Un reportage de Lokukwana Moussi, le récit est de Thierry Kaoré.
Au milieu de la pandémie du VIH-Sida des années 2000, le système de santé de l'Eswatini était débordé. Selon les chiffres de l'ONU-SIDA, 25% de la population adulte était infectée avec un accès limité à des traitements. Constatant le besoin urgent dans l'Eswatini rural, Eko et Harry van der Waal, venus de l'Ohio, ont créé la commission Luke TLC. Financée par le gouvernement américain par l'intermédiaire du plan présidentiel d'aide à la lutte contre le SIDA, PEPFAR, de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et de la Free Wheelchair Mission, TLC fournit chaque année des services de santé gratuits et de qualité à plus de 300 000 personnes défavorisées dans les régions rurales de l'Eswatini. Sibusiso Wolf est l'un des nombreux patients dont la vie a été transformée par TLC. Pendant des années, il a souffert de douleurs chroniques à la hanche.
Je me suis référé à la vie que je menais auparavant et j'ai vu mes amis avancer. Ils progressaient dans la vie et je n'avançais pas. J'ai été ravi de recevoir un appel de TLC qui m'a dit « Vous savez quoi ? Nous avons une solution à votre problème, la pose d'une prothèse de hanche. C'est une opération très coûteuse. Sachant que je n'avais pas à payer un centime, j'étais très content. »
D'autres habitants comme Gabriel Shiba, une personne âgée, ont retrouvé l'espoir avec TLC.
Vous allez dans d'autres hôpitaux, ils vous diront « Nous sommes encore en train d'appeler un médecin, attendons ». Nous avons perdu beaucoup de vie là-bas, mais ici, il y a un médecin tous les jours. On peut même pleurer parfois ici, lorsqu'on vous lave à l'eau chaude le matin. Il n'y avait que ma mère et mon épouse qui m'avaient lavé jusque-là.
Arrivé à Neswatini au plus fort de l'épidémie du VIH en 2004, le couple américain s'est concentré sur l'élaboration d'une stratégie pour apporter des soins de qualité aux personnes les plus isolées à Neswatini. La commission Luc fournit des soins hospitaliers, chirurgicaux, d'urgence et intensifs sur le campus Miracle dans le centre de l'Eswatini. Chaque jour, l'équipe de TLC, composée de plus de 700 personnes venues des États-Unis et de personnel local, dispense des soins par le biais de plus de 100 hôpitaux mobiles chaque année à travers le pays. La stratégie de la chaîne d'approvisionnement de TLC consiste à fournir des services de santé mobile aux communautés et à mettre en place un système fiable de gestion des stocks et le transport des fournitures vers les différents sites. Eke Van der Vol est cofondatrice et directrice exécutive de TLC.
Nous avons reconnu que les gens pouvaient monter dans le bus, payer le ticket du bus et qu'ils pouvaient payer les frais au centre de santé. Là où ils ont vraiment des difficultés, c'est lorsqu'ils doivent se rendre à la pharmacie pour acheter leurs médicaments et nous ne voulions pas que ce lien soit rompu. Nous avons donc travaillé très dur en coulisses pour développer un système de chaîne d'approvisionnement solide qui garantirait que tous les défis de la chaîne d'approvisionnement soient gérés par nous.
Dans un monde où l'accès aux soins de santé est souvent négligé, le couple Van der Waal est la preuve vivante de la solidarité humaine.
Too much till you spend half your life.
Voilà qui conclut notre journal. Merci de nous avoir suivis sur VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction et de production pour leur travail acharné. À la présentation, Nanit Talani, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet voaafrique.com et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. L'équipe de VOA Afrique, par ma voix, vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.